Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. 17 personnes enlevées hier à Pandroma, en Ituri, dont plusieurs marchands de Mahagi, dont les biens ont été pillés par ces assaillants. Les familles des victimes demandent l'implication du gouvernement pour la libération des otages et la restauration de l'autorité de l'État dans ce coin du pays. Cinquième jour de la rentrée scolaire aujourd'hui en RDC. Cependant, plusieurs élèves de Bandunduville et ses environs en vacances à Kinshasa restent bloqués dans la capitale. En cause, la suspension par le gouvernement du Kwilu du trafic entre Mongata et Bandunduville à cause de l'insécurité due au conflit Teke et Yaka. L'invité de ce midi, Jonathan Tabaro, secrétaire exécutif de l'Observatoire pour la défense des droits des personnes handicapées, il nous parle des objectifs clés du dialogue intercommunautaire tenu cette semaine à Beni. Bonjour et merci de nous recevoir à Pandroma, en Ituri. Ici, des miliciens de la CODECO ont enlevé hier 17 personnes, dont des nombreux marchands venus du territoire de Mahagi. Ces miliciens ont envahi le marché de cette localité du territoire de Djougou en tirant des coups de feu qui ont paralysé les activités économiques. Selon des sources sécuritaires, beaucoup de commerçants ont perdu leurs biens pillés par ces assaillants. Les familles des victimes demandent au gouvernement de s'impliquer pour la libération des otages et de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays, le récit de Isaac Remoyope.
Des commerçants venus de plusieurs localités des territoires de Djougou et de Mahagi ont fait les déplacements jeudi au marché hebdomadaire de Pandroma, environ 110 km au nord de Bounia. Certains sont venus écouler des produits de première nécessité et d'autres des vivres. Ils ont été surpris dans la matinée par des tirs nourris des miliciens de la CODECO qui se sont introduits au marché, déclarent des sources de sécurité. C'était la panique générale, des gens couraient dans toutes les directions pour se sauver, laissant derrière eux leurs marchandises. Ces hommes armés ont pris en otage 17 personnes composées essentiellement des ressortissants du territoire des Mahagi. Toujours selon des sources de sécurité, c'est en représailles pour exiger la libération des 4 miliciens de la CODECO arrêtés il y a 2 semaines par la police nationale en relais et transférés à Bounia. Ces personnes ont été acheminées dans les bastions de cette milice dans la forêt vers le village de Lobou. Ces civils ont également pillé plusieurs biens des marchands et emporté au moins 4 motos des particuliers. Les familles des otages demandent au gouvernement de s'impliquer pour la libération de leurs frères, mais aussi aux leaders du groupe armé CODECO de respecter leur acte d'engagement pour la cessation des hostilités. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Restons en Ituri. 13 villages de la chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mambasa, sont occupés depuis une semaine par les rebelles des EDF et leurs alliés Mai Mai. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, signale que toutes ces entités sont vidées de leurs habitants et toutes les activités y sont paralysées. Cette structure plaide pour que les opérations militaires soient intensifiées dans cette zone pour permettre aux populations de retourner dans leur milieu. Le point avec Martial Kizabiamongo.
C'est depuis le 5 septembre dernier que des présumés rebelles de ZADF ont attaqué les villages de Mezimezi, Matontonto, Tiwa, une dizaine de civils et d'autres pris en otage. Selon l'ONG CRDH, ces rebelles appuyés par des Maïmaï et Kandenga ont hissé leurs drapeaux de couleur rouge dans de nombreux villages tels que Krilenge, Majengo, Masongo, Botoka, Lissoma. Christophe Mouniaderou, son coordonnateur, appelle l'armée à plus d'efficacité pour neutraliser ces ennemis qui étendent leurs rayons d'action.
Les cris d'alarme de la population civile et de voir le lancement des opérations militaires qui vont aider afin que l'ennemi qui est du côté de Biakato soit traqué.
L'administrateur du territoire de Mambasa indique que les opérations de traque de ces rebelles sont en cours dans cette zone. Jean-Baptiste Matadi affirme que l'ennemi qui a été défait dans plusieurs villages qu'ils occupaient a fui vers Samboko.
Partout là, le travail a été fait et est en train d'être fait. Nous demandons à notre population de revenir dans leur milieu et de soutenir notre armée.
Notons que plus de 30 personnes sont déjà tuées en espace d'un mois par les ZADF et Maïmaï dans la région de Babila-Babombi. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Entre-temps, dans le territoire de Beni, au nord Kivu, un civil a été tué et des maisons incendiées. Bilan encore provisoire d'une incursion des des terroristes ADF au point kilométrique 25 sur l'axe routier Mbao-Kamango dans le secteur de Benimbao. Une source de la société civile du secteur de Benimbao qui livre l'information indique que ces rebelles venus du secteur voisin de Rwenzori, traversant le parc, ont opéré dans cette localité aux environs de 20 heures locales avant que l'armée n'intervienne pour les repousser. Contacté, le porte-parole des opérations militaires dans la région confirme le fait. Le capitaine Anthony Mwalushai indique que l'armée est en pleine opération de patrouille des combats dans la zone. Toujours dans le territoire de Beni, deux jours après l'attaque de la commune rurale de Boulongo, la nuit de mercredi à hier jeudi, attaque ayant coûté la vie à 6 civils, la société civile demande aux autorités militaires de se pencher sur la question de la sécurité de cette commune devenue un couloir de la mort. Le coordonnateur de la société civile de Beni, Meleki Mulala, explique la situation au téléphone de Marc Marofimbo.
Nous, comme nouvelle société civile du secteur Rwenzori, nous condamnons avec la toute dernière énergie ce que l'ennemi a fait au niveau de la commune. Nous, on ne comprend pas vraiment comment l'ennemi peut commencer à s'attaquer à la population à 20h30 sans intervention pendant qu'on a une multitude de forces dans la commune. Donc, nous pensons que c'est la défaillance des services de sécurité qui sont commis à Boulongo pour sécuriser la population. Nous pensons que les commandants en charge des opérations Sokola 1 puissent voir comment travailler sur cette question et interpeller ces services là-bas, puisque leur travail, c'est de protéger la communauté, c'est de protéger la population et leur bien. Mais on est déçus quand on continue à compter les morts des civils comme ça. On est déçus vraiment.
Contacté, le porte-parole des opérations militaires Sokola 1 appelle les acteurs de la société civile à alerter à temps les services de sécurité dans leurs entités respectives, surtout mouvements suspects dans la région, plutôt que de le faire à travers les réseaux sociaux. Je vous le disais en titre, alors que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, plusieurs élèves de la ville de Bandundu et ses environs qui étaient en vacances à Kinshasa ne sont toujours pas retournés dans leur milieu scolaire. Ils sont bloqués à Kinshasa à cause de la suspension du trafic sur la nationale numéro 17, axe Mongata-Bandunduville, par le gouvernement provincial du Kwilu, ce à la suite de l'insécurité due au conflit Teke-Yaka. Préoccupés du retard des matières qu'accumulent ces élèves, la communauté des jeunes leaders CJL, un mouvement citoyens œuvrant à Bandunduville appellent le gouvernement congolais à mettre en place un mécanisme pour rapatrier urgemment ses élèves afin qu'ils reprennent le chemin de l'école. Serge Nakweti est le coordonnateur de la CJL. Il explique au micro de Irène Boma.
Partant du conflit entre les Teke et Yaka, auquel a abouti à la suspension de la voie terrestre de la route nationale numéro 17 entre Mongata-Bandundu, voire la voie fluviale. Sur la voie aérienne qui est utilisée ces jours-ci, qui d'ailleurs est saturée. Néanmoins, la quasi-totalité des élèves de l'espace Grand Bandundu bloqués à Kinshasa pour des raisons précitées. Considérant les retards des matières que doivent recevoir les futurs cadres du pays, suite à cette mesure prise par le gouvernement, la communauté des jeunes leaders CGLMJRDC sollicite au gouvernement central, tant provincial de l'espace Grand Bandundu, de mettre en place une procédure de rapatriement urgente pouvant permettre aux élèves habitant les villes de Bandundu et les environs de regagner le plus vite possible leur milieu scolaire. La CGL propose au gouvernement de disposer des équipes des FRDC pouvant escorter les bus et autres moyens de transport en provenance de Kinshasa pour des grandes villes de la province du Kwilu afin d'épargner les élèves et les parents car il est pratiquement impossible à la majorité des parents de pouvoir payer les billets d'avion pour leurs enfants, voyant les conditions socio-économiques qu'ils traversent.
Du côté du Maniema, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1, accompagné de certains membres du syndicat des enseignants de cette province et des membres de l'association des parents d'élèves, a effectué une mission d'itinérance mercredi dans la sous-division de Kalima, située à plus de 100 km de Kindu. Le constat, selon Yoy Bokete, est que la rentrée scolaire et la gratuité de l'enseignement sont effectifs dans cette partie du pays. Florence Kiza pour les détails.
En plus de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2022, Yoy Bokete a saisi cette opportunité pour encourager les jeunes filles à aller et demeurer à l'école.
Parce qu'il y a eu des doutes, il y a eu certains qui disaient que les rapports de Kalima n'étaient pas authentiques. Mais quand nous sommes descendus là-bas, nous avons trouvé que vraiment les sous-proviseurs avaient fait un bon rapport et que la rentrée scolaire au niveau de Kalima est effective. Oui, on a sensibilisé les jeunes filles à aller à l'école et les garçons. Et toutefois, nous avons pris en charge la scolarité l'organisation d'une fille qui s'est distinguée par l'éloquence pour stimuler les autres filles aussi à emboîter les pas.
Du côté des CIECO, son secrétaire provincial remercie ses pères d'avoir répondu au mot d'ordre de la rentrée scolaire. Maulumanda Mukute.
Je les remercie pour avoir répondu massivement pour l'encadrement des enfants. Nous avons opté pour forger ces âmes pour qu'elles deviennent utiles à elles-mêmes et à la société congolaise tout entière. Et si la grève arrive, c'est un incident, mais ce n'est pas pour autant que la grève doit être notre mode de revendication. Nous pouvons revendiquer par d'autres voies, tout en étant à l'école, en train d'enseigner les enfants.
Selon le proverbe, cette mission est l'une des recommandations des dernières assises de Kinshasa, où il a été recommandé aux autorités scolaires de plus aller sur terrain plutôt que de rester dans leur bureau. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
La journée mondiale de l'alphabétisation a été célébrée hier 8 septembre au Sud Kivu. Cependant, la question est de moins au centre des préoccupations. Les rares structures qui organisent encore ce type de formation à Bukavu ne drainent plus assez de monde. Des jeunes analphabètes sont même complexés de fréquenter les centres d'alphabétisation. C'est un reportage de Jean Kassami.
Parmi les rares structures qui organisent encore l'alphabétisation dans la ville de Bukavu figure le centre multimédia. Toutefois, son promoteur, Aris Arajabu, n'est pas satisfait du niveau de fréquentation obtenu durant 10 ans.
Il y a peu de gens qui arrivent ici. Pour le moment, on a formé une vingtaine de personnes, souvent des adultes. Ce sont soit des hommes qui travaillent quelque part et sont conditionnés de savoir lire et écrire. Et la plupart des femmes sont des commerçantes qui voyagent et qui sont obligées de savoir lire et écrire. Lorsqu'il y a, par exemple, un client qui arrive, elles doivent écrire le récit ou la quittance.
À Bukavu, des jeunes analphabètes se disent même complexés de fréquenter les centres de formation ad hoc. C'est pour cette raison d'ailleurs que le centre Annunciata Koketi a transformé son centre d'alphabétisation en un centre de rattrapage scolaire dénommé CRS. La directrice du centre, Sœur Justine Kaniki, indique que les jeunes affluent massivement maintenant depuis l'annonce des changements de dénomination. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
La pénurie en carburant constatée dans la ville de Kinshasa pourra-t-elle affecter d'autres villes du pays, notamment le Lubumbashi? En tout cas, les pétroliers du Katanga rassurent que jusque-là tout va bien, mais ils restent aux aguets par rapport au prix du baril de pétrole sur le marché international. Le point de la situation avec Jean Gandou.
À Lubumbashi, la distribution de carburant se fait sans désemparer. Il ne s'observe pas des files d'attente devant les stations-service. Comment comprendre que la ville de Lubumbashi, qui a toujours enregistré des remous dans ce secteur, en soit épargnée? D'après les pétroliers du Katanga, le problème d'approvisionnement en carburant ne se pose pas. À la différence avec la ville-province de Kinshasa, dans le Grand Katanga, le prix du litre à la pompe ont été revus à la hausse plus d'une fois. C'est ainsi que le Katanga, qui avait le prix inférieur à ceux en vigueur à Kinshasa, a en ce jour les prix les plus élevés, soit 3140 francs congolais le litre d'essence à la pompe. Pour les bancs pétroliers, la situation de carburant est consécutive au gel de la structure des prix imposée par le gouvernement. Ce dernier s'était engagé à payer le manque à gagner aux pétroliers à défaut de la révision à la hausse du prix du litre à la pompe. Pour les pétroliers du Katanga, cette situation est aussi tributaire du prix du baril de pétrole sur le marché international. Tout changement du prix du baril aura à coup sûr des répercussions sur la situation des distributions de carburant dans la province. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Plusieurs pays du continent ont réagi à l'annonce du décès de la reine Elisabeth II de l'Angleterre. Le Nigeria, gouverné par l'Empire britannique du milieu du 19e siècle jusqu'en 1960, est l'un de ces pays. L'émotion était également au rendez-vous en Afrique du Sud. Le maire de Cape Town a mis en avant les relations que la reine entretenait avec sa ville, cité où Elisabeth II avait d'ailleurs soufflé ses 21 bougies. En Angola, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours concernant un litige électoral déposé par le parti politique UNITA en estimant que les éléments qu'il présente ne permettent pas de remettre en question le résultat global du scrutin, a déclaré la juridiction suprême dans une décision dont l'AFP a eu copie. La cérémonie d'investiture de João Lourenço, 68 ans, est donc prévue le 15 septembre en cours. Et puis, sachez que l'aide internationale a commencé à parvenir au Pakistan dans le cadre d'un plan d'urgence des Nations Unies, mais elle est insuffisante. En visite dans ce pays meurtri par les pires inondations de son histoire, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, espère mobiliser davantage.
L'invité.
Il s'agit du secrétaire exécutif de l'Observatoire pour la défense des droits des personnes handicapées. Jonathan Tabaro nous parle des objectifs clés du dialogue communautaire tenu le lundi 5 septembre à Beni. Ce dialogue qui a réuni plusieurs acteurs locaux portait sur la perception de paradigme de la paix à Beniville et territoire. Jonathan Tabaro s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Jonathan Tabaro, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces dialogues communautaires sur la perception des paradigmes de la paix en ville et territoire de Beni en particulier, mais surtout dans la zone est en général?
Une seule chose, notre contribution au retour rapide de la paix dans la région. Parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui n'ont rien donné jusqu'à présent. Nous venons, dans notre tâtonnement, nous venons essayer, proposer une autre approche qui n'a jamais été explorée. Et nous venons, pendant que cette région traverse des moments particulièrement difficiles, toute personne de bonne volonté doit venir aux rescousses de nos frères et soeurs, de Butembo et Beni. Voilà la raison d'être de l'ODDPH, l'Observatoire pour la défense des droits des personnes handicapées, à travers, bien sûr, notre projet intitulé « Investir dans la prévention des conflits communautaires et stigmatisation des personnes handicapées dans les entités locales du Nord Kivu ». C'est un projet donc que nous sommes en train d'exécuter, ce qui justifie notre présence.
Alors, d'après les analyses, qu'est-ce qui serait vraiment à ce niveau comme blocage majeur pour arriver à cette paix tant recherchée par tous?
Il y a beaucoup de facteurs qui justifient cette instabilité chronique finalement. Mais la principale, il y a d'abord le manque de volonté de vivre ensemble. Ça figure au premier niveau. Il y a les murs de séparation. Ces murs qui séparent nos frères et sœurs du Grand Nord par rapport à ceux du Grand Sud. Ces murs de séparation doivent tomber. Et nous sommes venus interagir avec les acteurs clés de cette région pour que ces murs tombent. Déjà avec les acteurs clés de Butembo, l'engagement communautaire a été pris. Les acteurs clés de Butembo veulent aller se retrouver avec les frères et sœurs de Rutshuru et de Masisi pour se rassurer mutuellement et briser ces murs. Au-delà des politiques, au-delà des influences politiciennes, parce que nous savons qu'il y a des mains invisibles qui ont toujours voulu, n'est-ce pas, diviser nos communautés.
Et vous pensez par quel mécanisme on va y arriver?
C'est justement, vous voyez, par exemple, cet atelier que nous organisons aujourd'hui à Beni. Vous voyez, nous sommes à 55 acteurs clés sélectionnés, les meilleurs que nous avons dans notre communauté de Beni, dans toutes les couches sociales. On a bien sélectionné, vraiment au-delà des influences, nous sommes en train de réfléchir sans émotion, sans état d'âme, sur les véritables causes de nos crises qui sont devenues chroniques. Nous sommes en train de réfléchir des solutions originales, authentiques. Comment nous pouvons contribuer au retour rapide dans cette entité? Bien sûr, en appui aux institutions de la République. Donc nous venons appuyer l'armée, la police, les services de renseignement, les gouvernements. Parce que le gouvernement fait sa part, nous devons faire notre part aussi.
Et vous pensez, étant qu'une petite couche ici, une petite représentation de 55 personnes qu'on venait de dire, comment ces messages peuvent être propagés à votre avis?
Bon, nous avons sélectionné les acteurs clés dans les organisations de la société civile, dans les organisations des femmes, des jeunes, des mouvements citoyens, les églises, les personnes handicapées. Et donc, ce sont des personnes clés qui sont capables de restituer les mêmes messages et d'en faire les suivis. Parce qu'en fait, cet atelier est différent des autres ateliers. Nous faisons cet atelier pour nous-mêmes. Nous n'avons même pas besoin d'adresser des recommandations à qui que ce soit. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui subissons les affres de la guerre, les affres du terrorisme, l'insécurité urbaine, c'est nous qui souffrons. Eh bien, nous n'avons plus besoin des solutions qui sont importées, de Kampala, ou de Nairobi soit-il, ou des États-Unis, du Rwanda, non. Nous avons besoin des solutions originales. Et les solutions appropriées se trouvent entre nos mains. C'est ce réveil que nous sommes en train de provoquer au sein de notre communauté pour qu'il y ait un engagement communautaire, pour prendre en charge nos propres problèmes. Et j'en profite pour dire à la jeunesse de ne pas considérer notre armée, la police, comme l'ennemi. Déjà, nous vivons dans une crise avec le terrorisme, avec l'insécurité urbaine. La crise est là. Il ne faut pas l'aggraver. Voilà.
Jonathan Tabaro, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous remercier.
Le secrétaire exécutif de l'Observatoire pour la défense des droits des personnes handicapées répondait aux questions de Marc Marofimbo. C'est la fin de ce journal supervisé, coordonné par Noëlla Luzi Tukabambi et Piero Elameji, à la mise en onde Dieudonné Nyangasa et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.